Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre antenne. C'est un plaisir d'être avec vous pour passer ce moment ensemble sur Calade jusqu'à 14h. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous pouvez profiter un peu de ce beau temps en cette période où c'est plutôt la course. On essaye de rattraper le temps confiné. On doit réorganiser plein de choses, mais il faut pas oublier de profiter un peu des choses simples, comme se poser quelques minutes au soleil dans un parc ou dans un jardin. Le beau temps, il est là, il va rester d'ailleurs. Les températures montent autour de 25 degrés cet après-midi et ce sera comme ça jusqu'à vendredi. Voilà pour le petit point météo. Au programme de l'émission du jour, on rencontrera Nadera Beremili, bénévole de l'association Hippo Tout Faire, association organisant le petit festival des dindes folles qui devait avoir lieu ce week-end à Rivolé. On a rendez-vous avec le coach pour une rubrique dédiée aux hommes qui souhaitent devenir de vrais mâles alpha. On parlera initiative citoyenne et solidaire avec Élodie Perrichon. Ce sera ensuite l'heure des pages d'information avec le journal de RFI et le journal local. Léonard du Super Son des 60s nous proposera une nouvelle découverte ou redécouverte musicale. Georges Botton sera présent pour sa rubrique Mai la 11e et on terminera l'émission en recevant un artiste du Beaujolais que vous connaissez déjà très probablement. C'est Sonit qui nous fera le plaisir de passer un moment avec nous. Voilà, mais pour commencer, un morceau qui donne la pêche si vous voulez bien. C'est les Aixois du groupe Deluxe qu'on va écouter tout de suite avec leur titre Get Down. Nous sommes ensemble sur Calade. Il est 12h14. Merci de passer ce moment avec nous.
Down.
voilà, c'était Deluxe sur Khaled avec leur très énergique morceau Get Down, ça fait du bien.
Ensemble sur Khaled, c'est évidemment sur Khaled.
Et nous retrouvons tout de suite notre première invitée pour cette émission, c'est Nadera Beremili. Elle est bénévole, membre du CA de l'association Hippo Tout Faire, qui organise tous les deux ans le festival, le petit festival, pour dire le nom complet, des Dindes Folles. Bonjour Nadera.
Bonjour Mathieu, bonjour Radio Khaled.
Comment allez-vous ?
Très bien, il fait beau, on s'adapte à la crise sanitaire et tout ce qui va avec comme on peut, et je suis contente de représenter Hippo Tout Faire et d'être invitée pour parler de ce festival.
Alors le petit festival des Dindes Folles, il y a ce mot devant petit qui vient s'ajouter, il n'est pas forcément petit d'ailleurs ce festival, il est organisé par l'association Hippo Tout Faire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association ?
Oui, bien sûr. Alors, Hippo Tout Faire, c'est une association qui a plus de 25 ans, si j'osais dire peut-être presque 30 ans. C'est une association, alors Hippo Tout Faire parce qu'il peut tout faire. Donc avec Hippo Tout Faire, on peut tout faire. Et dans l'historique de cette association, c'était 10 jeunes gens qui se faisaient appeler les 10 Grolles, qui sont partis depuis le village de Rivolet à travers les campagnes. Donc c'était des jeunes personnes, des ados, jeunes adultes, qui se déplaçaient en roulotte, tirés par des chevaux, et qui présentaient leur spectacle de village en village pour le plaisir. Et revenus de leur aventure, quand ils sont revenus chez leurs parents, on va dire, à Rivolet, se sont dit c'est quand même dommage qu'on puisse pas présenter notre culture dans notre propre ruralité. Et ils ont décidé de faire ce festival des Dindes Folles. Alors me demandez pas le nom, je crois que même le savent pas. Mais pourquoi les Dindes Folles ? Peut-être la campagne, etc., la jeunesse, la folie. Et en faisant ce festival, ils ont été très vite victimes de leur succès. Les Lyonnais en ont entendu parler par bouche à oreille, ont débarqué, ont trouvé ça super. Et ils se sont fait un peu déborder déjà il y a plus de 25 ans. Ils se sont dit, bon, on va rester à échelle humaine et on va appeler ça le petit festival des Dindes Folles, en disant qu'on reste un petit festival. Et comme vous l'avez dit, le bouche à oreille a continué à faire les choses. Et aujourd'hui, c'est un festival qui brasse des milliers de spectateurs. On a 3 à 4 000 spectateurs sur un week-end quand il fait beau, des centaines de bénévoles, une trentaine de compagnies, et l'association Hippo Tout Faire depuis porte le festival, mais aussi propose des ateliers pour les petits et les grands, soutien à la création, à l'éducation musicale dans les écoles. Voilà, c'est des gens qui insistent pour qu'on parle de petit festival d'un point de vue humain, mais grand aussi d'un point de vue humain, dans le sens où ça brasse du monde, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair.
Un grand moment, un grand rendez-vous dans la région du Beaujolais, le Festival des Dindes Folles, qui a lieu tous les deux ans. La dernière édition, c'était en 2018. Pourquoi une biennale
Alors pourquoi une biennale ? Alors déjà, si j'ose dire, c'est un événement qui est attendu d'un point de vue local, mais aussi national. On a des publics, on a un public fidèle, amoureux des arts vivants, et qui savent qu'aux Dindes Folles, ils vont voir ce qu'ils vont pas voir ailleurs, de la culture dans un cadre idyllique. Donc du coup, on a des gens qui viennent avec leur caravane, leur tente, ou qui vont réserver des chambres chez de la famille, ou en Airbnb ou à l'hôtel, pour ne pas rater cet événement. Et pourquoi en biennale ? Parce que ce festival, il est porté par énormément de bonne volonté. C'est essentiellement des bénévoles passionnés qui, dans la vie, peuvent être professionnels de la culture ou pas, mais qui donnent énormément de leur temps pour faire vivre ce festival. Et pour pas épuiser toutes ces bonnes volontés, on s'est dit, que je sois bénévole dans ce festival, avaient pris la décision de dire, on va pas épuiser ce vivier de bénévoles, où ça va de 20 à 30 personnes piliers, mais à 300 personnes qui vont aider plus ou moins sur l'année. Et l'idée, c'est de faire une pause. Une année, on respire, on réfléchit, on voit ce qu'on veut faire, on prend du recul et on construit au fur et à mesure pour que l'année, on se mette à fond et qu'on fasse vivre un bel événement dont on est fier, entre guillemets.
Et proposer
voilà pourquoi la biennale.
Proposer le plus beau rendez-vous possible. Alors, ça se passe dans un lieu particulier, ce festival. C'est dans un champ, mais un champ totalement aménagé.
Oui, alors c'est un terrain, alors sur le papier on pourrait dire un terrain agricole, mais en fait en tant qu'humain, c'est juste un terrain idyllique, c'est un terrain qui est magnifique. Moi j'étais pas de la région, je suis arrivée par hasard pour des raisons professionnelles, et on m'a parlé des dindes folles, je suis allée voir, on m'a proposé d'être bénévole, j'ai fait les réunions, j'étais accueillie par une équipe humainement très sympa et très compétente, où chacun apportait ce qu'il avait envie, ce qu'il savait faire, ce qu'il avait envie d'essayer de faire. Et puis au bout d'un an de préparation, de réunion, il commençait à faire beau. Mon mari était aux travaux, moi j'étais à la prog. Et à un moment donné, je dis bon, on va aller voir le terrain. Et là, waouh, quoi, un terrain idyllique, un ruisseau, un sous-bois, un théâtre naturel avec la touche de l'homme qui apportait. Parce qu'il faut savoir que tous les deux ans, il y a le festival. Mais entre les deux, c'est un terrain où il y a des agneaux, des moutons, des papillons, la nature. C'est un endroit qui est très, 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 très beau, très préservé et qui est très accueillant au moment du festival, mais à d'autres moments aussi. Mais c'est un terrain privé qui est ouvert ponctuellement au public. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on trouve pendant le festival dans ce lieu idyllique?
Alors, j'ai envie de dire que dans ce lieu idyllique, poétique, bucolique, on trouve de tout. À savoir que quand on arrive, en fait, on peut lâcher prise, quoi. On peut poser sa tente, ranger sa carte bleue dans un coin et on va tout acheter en plume. Et on va se nourrir de bio et de local. Mais dans le bio et local, on va avoir des spécialités du coin. Mais on peut aussi manger des pâtisseries orientales, des crêpes. On peut boire de l'alcool ou du sans-alcool. On peut se nourrir de spectacles et d'art vivant, où on peut se balader de l'art de la rue transformé en art des champs. On peut écouter de la musique, on peut jouer, on peut glaner, on peut discuter, on peut s'amuser, on peut se reposer. Enfin, on peut pendant 2-3 jours, en fait, c'est un moment hors du temps où on oublie tout ce qui se passe ailleurs et puis on profite de la beauté, du vivre ensemble, de la culture.
Et sur scène, donc, il y a une programmation assez riche et diversifiée, autant de musique que d'autres types d'art, peut-être plus visuel.
Oui, tout à fait. L'idée, notre charte, entre guillemets, c'est d'apporter de la diversité culturelle en milieu rural et que le public qui se sent convaincu que, je sais pas, moi je pense à des personnes qui se disent moi j'aime que le rock et pas le rap, en fait ils vont arriver et en musique ils vont découvrir de l'opéra lyrique, de la techno, du slam, de la musique du monde, c'est très très varié en musique et aussi en art visuel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du théâtre engagé ou pas, du cirque, du clown qui peut être interprété d'une manière par les enfants mais autrement par les adultes, où on est très libre en fait de se laisser surprendre ou au contraire d'aller vers ce qu'on aime déjà et l'idée c'est à chaque fois d'apporter de la diversité et on aime bien aussi apporter de la nouveauté. On a des artistes locaux, des artistes connus reconnus, des artistes qui sont venus avant d'être connus et qui sont devenus connus après. On a des artistes fidèles et dans tous les cas, l'idée c'est de présenter cette diversité-là. Dans les artistes, on a des artistes professionnels, on a des artistes amateurs, on a des artistes bénévoles, on a des artistes en devenir, on a des enfants qui montent sur scène avec... bref, c'est de montrer cette diversité culturelle dans ce même endroit.
Une grande richesse. Cette année, pour l'édition 2020, qu'est-ce qui était prévu un petit peu? Est-ce que c'est pas forcément une bonne idée de se demander ce qu'on verra pas cette année, mais j'imagine qu'on le verra peut-être plus tard.
Si, si, il faut demander parce que ça donne l'eau à la bouche. Nous, on prépare la programmation depuis 2 ans avec passion. On a plein de commissions. Il y a la commission travaux, la commission repas, la commission programmation, sécurité, administration, etc. Et en fait, à la commission prog, ça fait 2 ans qu'on imagine, qu'on propose, qu'on voit ce qui est possible techniquement, etc. Et du coup, on a vraiment hâte de vous faire découvrir ce qui nous fait rêver. Donc déjà, dans les artistes locaux, il y a des personnes très attendues, connues localement. Je pense à Laurent Fellot, Pierre Talaron, Marie Rubin, Suc Fellot, Lydie Kamikaze, etc. Donc du coup, eux, ils répondront à l'appel pour la suite. Pour les artistes connus et reconnus, on a des gens qui ont fait le In d'Aurillac ou de Chalon, qui ont fait Salle Pleine à Avignon et qui comptent venir. Et on est en train de se préparer avec eux pour voir, parce qu'on annule pas, on reporte autrement. On a des artistes fidèles, comme je disais, qui n'étaient pas connus avant, mais qui sont devenus connus après. On a des jeunes compagnies comme Raskar Kapak. Alors c'est NSM la réinsertion. NSM, c'est un gros mot en vrai, mais c'est des jeunes artistes parisiens qui font quelque chose de génial et on n'a pas envie d'attendre 2021 pour parler d'eux. Donc peut-être qu'on fera des spectacles chez l'habitant dès que la crise sanitaire économique nous le permettra, de faire des spectacles dans les champs, en salle des fêtes, faire des avant-goûts, présenter sur le site le travail. Bref, nos artistes, on les a pas choisis par hasard. Certains pourront revenir en 2021, d'autres ne pourront pas parce que c'était la fin de leur tournée ou ils avaient d'autres choses prévues ou autre. Mais dans tous les cas, on a tous envie de vous les faire découvrir.
D'accord, donc vous allez chercher des alternatives dès que la reprise du spectacle vivant sera possible pour nous donner rendez-vous à d'autres occasions.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va mettre la priorité pour des raisons sanitaires, économiques et sociales sur nos artistes locaux qui sont sur place. Mais on a aussi des artistes qui viennent de plus loin, qui peut-être entre 2 spectacles de tournée viendront nous présenter des choses. Normalement, pendant le festival, il y a aussi beaucoup de présentations d'ateliers bénévoles, professionnels ou semi-professionnels. Donc, je pense aux enfants qui font du cirque, aux ados, je pense à l'école de Rivolet qui a travaillé avec Laurent Fellot, je pense au théâtre avec Pierre Talaron, ou peut-être qu'ils ne pourront pas refaire exactement la même formule en 2021. Par exemple, des enfants qui étaient au CM2, l'an prochain, certains seront en 6e, ici ou ailleurs. Donc on ne fera pas un copier-coller, mais on mettra la priorité sur ce qu'on avait déjà imaginé et travaillé ensemble pour mettre en valeur tout ce qui a déjà été fait.
Oui, parce que tout ça, c'est des activités de l'association Il peut tout faire, autre que le festival. Il y a différents ateliers que vous mettez en place au cours de l'année. Oui. Avec les membres de l'association et ça aussi, oui. Malheureusement, c'est en général lié à l'art, le spectacle vivant, cet atelier.
Oui, tout à fait. Mais comme on le disait au départ, hein, il faut tout faire si on peut tout faire. Et on a un petit grain de folie, mais comme dirait l'expression, heureux les fêlés qui laissent passer la lumière. C'est qu'on a envie de faire plein de choses. Et à chaque fois, on se dit, oh là là, ça va pas passer. Puis finalement, avec l'envie, les bonnes volontés, un peu de magie, du destin, je ne sais pas, il s'avère qu'il peut tout faire. C'est un festival, porte des ateliers, porte un projet d'accompagnement à Belleroche sur le quartier en rue où plusieurs de nos artistes musiciens locaux, je pense à la coordination avec Laurent Fellot, mais à des artistes comme Charles, Clotilde, bref, plein d'artistes locaux qui ont accompagné les enfants dans leur classe dans le quartier à Belleroche et qui ont été pris de court par la crise sanitaire où il a fallu réinventer, qu'est-ce qu'on fait, comment, c'est pareil pour les ateliers. Donc par exemple, les ateliers avec les adultes, ça reprend progressivement. On est responsable de la santé aussi de chacun. La culture, c'est important, mais la santé avant tout. Donc il y a un vrai besoin, il y a un vrai besoin de faire de l'art, c'est un besoin primaire. Dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a commencé à peindre sur les grottes, à chanter, à parler. Donc on entend comprend ce besoin des enfants et des adultes et on réfléchit techniquement à comment mener des ateliers tout en respectant les règles sanitaires. On privilégie le plein air, le petit groupe. Mais bon, comme on est hypo tout faire et qu'on peut tout faire et qu'on sait s'adapter entre guillemets à la pluie, à la météo, on dit ben, le virus, il faut être vigilant. Mais il ne faut pas être angoissé, il y a plein de belles choses à faire et on compte bien les faire.
Voilà. Bon, en tout cas, on a hâte de effectivement retrouver des artistes et notamment ceux de votre association et puis de pouvoir participer au Festival des Dindes Folles, donc qui est reporté à 2021. Et puis vous nous l'avez dit, plusieurs événements dans l'année oui. pour nous faire patienter et puis pour retrouver oui. les artistes programmés. Comment est-ce qu'on se tient au courant de votre actualité, de ces événements qui vont être créés? Comment est-ce qu'on vous suit?
Eh bien, c'est à la fois facile et compliqué, c'est-à-dire comme la crise sanitaire et économique et culturelle. Non, concrètement, il y a plein de moyens d'être au courant. Celui qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Il y a tellement de monde passionné qui sont bénévoles 1 heure, 30 heures, 60 heures. Voilà, bref, il y a plein de gens qui sont impliqués. Donc le bouche à oreille, on fait parler. D'ailleurs, si vous voulez être bénévole, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Hein. Vous pouvez venir apporter vos compétences ou dire, moi, je ne sais pas faire ça, mais j'ai envie d'apprendre avec vous, etc. Quoi. Donc, pour se tenir au courant, si vous ne trouvez pas le bouche à oreille, il y a le Facebook des Dindes Folles. Il suffit d'aller sur Facebook, taper Dindes Folles, je crois qu'il n'y a que nous. Il y a le site internet des Dindes Folles, qui, pareil, est en train de se refaire un coup de beauté. Donc, on remercie, pareil, les artistes associés pour nous aider à refaire ce site. Il y a la communication. On a une très, très belle affiche de Benjamin Flao. Vous la verrez peut-être sur Radio Calade. Donc, c'est un de nos artistes qui nous soutient depuis bien longtemps. Quand vous allez sur le site des Dindes Folles, vous pouvez demander à avoir la newsletter. Alors la newsletter, on a notre ami Serge qui s'occupe de la newsletter, qui fait très attention de ne pas submerger les gens d'infos. Donc du coup, vous vous inscrivez, vous avez une lettre trimestrielle, je crois, où on vous dit, voilà, il va y avoir tel événement ponctuel, tel plus gros événement, on cherche de l'aide ou pas, on cherche à boire un verre et à se rencontrer autour de la culture. Donc voilà, la newsletter pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, c'est le bon plan. Et Facebook pour ceux qui préfèrent. Et Radio Calade qui nous invite pour en parler. Voilà.
Et oui, bien sûr. Bon, et ben merci beaucoup. On ira vous suivre que ça sur les réseaux sociaux, sur Internet et puis en utilisant tous les moyens que vous nous avez proposés. Merci Nadera Beremili. Donc vous êtes bénévole à l'association Hippo Tout Faire. Merci de nous avoir parlé du Festival des Dindes Folles.
Oui, merci à vous de nous avoir invités. Et puis j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, bénévoles, professionnellement, tout ce qui fait que la culture puisse exister, quelles que soient les conditions. Donc merci à tous et à tous les auditeurs qui ne connaissent pas. Allez voir le Facebook, la newsletter. Venez nous voir, venez nous donner des coups de main, venez partager. Voilà, merci à tous.
Le message est passé. Très bonne journée, à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir, bonne journée, au revoir.
Ensemble sur le Calade.
Allez, on va se quitter avec un morceau d'un artiste qui était très probablement programmé au Festival des Dindes Folles. C'est Laurent Fellow avec son groupe Les Fourmis dans les Mains. On écoute Comme il nous plaît. Oh
J'amasserai des pierres muettes, une à une. Planterai des fruitiers à la descente de la lune. J'agrandirai les lucarnes pour entendre les brames. Taillerai les cyprès, les haies et même tous les arbres. J'arroserai les blés autant qu'il y aura de printemps. Je ferai un jardin, m'en écorcher les mains. Des gouttes de pluie dans des seaux, des ruisseaux. Un étang pour le plus doux des bains. Comme il te plaît, comme il te plaira. Comme il nous plaît, comme il nous plaira. Je sécherai au soleil la milice et l'hélice. apprivoiserait des serpents pour s'écarter les rats, dresserait un cheval pour le labour dans les plaines, et les moutons, j'en garderais la laine. Comme il te plaît, comme il te plaira, comme il nous plaît, comme il nous plaira. Attends, attends encore un instant, regarde d'où vient le vent. Attends encore une année, touche du doigt nos premiers blés. Attends, attends encore un an, regarde les couchants. Attends encore les averses sous l'orage qui se perce. Soit bûcheron, jardinier, potier ou maquignon, paysan, habitant une ferme, un palais. J'y couperai des foins, des rosiers pour les plus beaux parfums quand on sera fâché. Et on en boira la rosée, comme il te plaît, comme il nous plaira.
Comme il te plaît, comme il te plaira, c'était des fourmis dans les mains sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et moi, il me plairait de devenir un vrai bonhomme, un mâle alpha. Et pour ça, j'ai ma solution. J'appelle tous les mardis mon coach personnel. Il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour, coach.
Salut, gamin. Comment ça va?
Eh ben, ça va bien, merci. Et toi?
Eh ben écoute, moi ça va, tu sais bien, hein, quand on est un mâle alpha, on se prend pas trop la tête non plus, hein, on fait comme on peut et on essaye de faire de son mieux, et c'est déjà pas mal. Alors j'imagine que depuis la semaine dernière, t'as essayé un peu quand même de t'améliorer toi aussi en tant que mâle.
Ah ben oui, à la maison, je fais ma part à la maison, j'essaie de faire mon boulot, de devenir un vrai bonhomme au quotidien.
Je suis fier de toi, gamin. Tu peux pas savoir comment. Là, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Waouh. C'est. Ouais, non, ça fait plaisir. Parce que tu sais, souvent, pour devenir l'alpha, bah, le mâle a dû cheminer longtemps. Il a regardé en arrière pour comprendre comment il s'est construit en tant qu'homme. Et on se pose la question, est-ce que c'était sur des bases solides? Ou alors, est-ce que c'était sur des foutaises virilistes? Et surtout, est-ce qu'on s'est construit en s'opposant au féminin? Eh ouais, parce que tu sais, gamin, quand il y a plusieurs polarités, que ce soit le plus, le moins sur les piles, que ce soit le nord, le sud, ou que ce soit le masculin et le féminin, bah, il y a plusieurs façons d'aborder une polarité différente de la nôtre. On peut l'envisager dans l'opposition, mais on peut aussi l'envisager dans la complémentarité. Alors, je me souviens d'une discussion animée avec des amis. On était en train de faire l'apéro, alors à chaque fois je raconte des anecdotes d'apéro, tu vas croire que je passe mon temps à picoler, mais c'est pas vrai. Mais peut-être que je suis un peu nostalgique de ce moment où on pouvait être bien en lien avec les gens et que là, bah, on hésite un peu. Enfin bref, je sais pas pourquoi, tous les souvenirs qui me reviennent sont des souvenirs d'apéro. Bref, on était en train de boire l'apéro avec des amis et ils nous racontent que pour le carnaval de l'école, leur fille voulait se déguiser en pirate. Et d'ailleurs, la gamine s'est dépêchée d'aller mettre son déguisement pour nous faire voir comment elle était belle en pirate. Elle avait un pantalon corsaire, la chemise bouffante qui va bien, un tricorne sur la tête, un bandon sur l'œil, une épée dans la main. Elle avait pris l'attitude qu'elle avait avec le personnage qu'elle avait choisi d'interpréter. Elle avait l'air méchante, grossière, elle parlait un peu, bon, un peu comme moi en fait. Les parents de cette petite pirate n'ont rien trouvé à dire au choix de leur fille qui est partie à l'école en pirate. Alors moi, tu me connais, gamin, je perds jamais une occasion de foutre la merde. Excuse-moi. Je ne perds jamais une occasion de déconstruire et d'interroger les représentations des personnes autour de moi. Alors, je leur ai demandé comment s'était déguisé leur fils. Bon, pas de surprise, Spider-Man, à peu près comme la moitié des garçons de l'école. Donc, l'honneur était sauf. Alors, un léger provocateur, parce que j'aime bien ça, je demande s'il avait demandé à se déguiser en Reine des Neiges. Le ton des parents a radicalement changé. Attends, tu veux qu'il se ridiculise devant tous ses amis? Ils m'ont demandé ça comme ça, ils étaient choqués. Alors, s'il avait fait ça, c'était mort pour lui, il allait se faire embêter tout le reste de l'année. Alors moi, j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, et puis toi aussi, gamin, posez-vous la question que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, et imaginez que vous en avez, comment vous réagiriez si votre fille souhaitait se déguiser en pirate pour le carnaval? Voilà, essayez d'imaginer un peu là, comment vous allez réagir. Et puis maintenant, comment vous réagiriez si votre fils voulait se déguiser en Reine des Neiges ou en princesse Disney, par exemple? Ben, dans les deux cas, on peut dire qu'ils choisissent un personnage de fiction et c'est que du déguisement. Ce sont des enfants qui s'amusent. Mais souvent, la réaction est la même. Une fille en pirate ou en cow-boy ou même en zoo, ben, ça pose aucun problème, ça passe. Mais un petit garçon qui se déguise en Blanche-Neige, en Elsa ou en Cendrillon, bah, tout de suite, ça crée un malaise. Alors moi, je pose la question, pourquoi cette réaction? On ne va pas tourner autour du pot sans s'étendre. La réponse est simple, le féminin dévalorise le masculin. Enfin, c'est ce qu'on pense, quoi. C'est ce qu'on a intégré. Les attributs féminins portés par un garçon, bah, c'est une attaque de la virilité. C'est aussi un réflexe de crainte par rapport à l'homosexualité masculine. La peur des parents que leur garçon rencontre des réactions hostiles à l'école s'il vient déguisé en princesse est légitime. Elle est légitime non pas parce que c'est normal de se faire embêter si on vient déguisé en princesse, mais parce que les enfants ont déjà intégré qu'un mâle ne doit pas se compromettre avec le féminin. Ils ont déjà intégré que le féminin a moins de valeur que le masculin et que le féminin abîme le masculin. C'est pour ça que les parents ne veulent pas laisser leur gamin aller à l'école déguisé en princesse ou déguisé en Reine des Neiges. Mais moi, je pose la question, gamin, à ton avis. Comment les enfants ont-ils intégré cela au plus profond de leur esprit? T'as une idée, toi, ou pas?
C'est parce que ça vient des parents, qui vient de leurs parents eux-mêmes, et ainsi de suite, non? C'est quelque chose qui se transmet?
Alors effectivement, on ne peut pas dire que c'est les gamins qui ont inventé ça tout seuls. Hein. C'est vraiment à cause de nous, les adultes, qui les éduquons. Alors bien sûr, les parents en premier lieu, les enseignants, les animateurs, les animatrices qui travaillent dans les centres de loisirs que fréquentent les enfants, les personnels qui interviennent auprès des enfants, à la cantine, sur les temps de garderie, mais aussi les oncles, les tantes, les grands-parents, enfin tous les adultes qui participent à l'éducation des enfants. En fait, les enfants, à chaque fois qu'ils nous entendent leur dire avec du dédain dans la voix ou avec un peu de dégoût dans la voix « Ah, mais ça, c'est un jeu de fille. Ah, arrête de couiner comme une fille. Il est pire qu'une fille, ce gamin. » Ou « Ah, la honte, tu t'es fait battre par une fille. Comporte-toi comme un homme. Comporte-toi comme un bonhomme. Ou comporte-toi comme un garçon. Arrête de te plaindre comme une fille. » Bah, à chaque fois qu'ils entendent ça, ils enregistrent que le féminin a moins de valeur que le masculin. Et ils reproduisent ce constat dans leurs interactions avec les autres enfants. Et les garçons intègrent qu'ils doivent se prémunir du féminin. Et les filles, elles intègrent, elles, de l'autre côté aussi, que le masculin a plus de valeur que le féminin. Donc il y a un côté où aussi elles se dévalorisent par rapport au masculin. Un mâle alpha, il a été construit comme ça, comme tous les autres enfants. Enfant, t'as pas les outils pour remettre en cause les normes qu'on te transmet. Alors tu avances dans la vie avec ces normes contrefaites qui t'éloignent du mâle alpha qui sommeille en toi. Parce que ces normes, elles vont pas faire de toi un vrai mâle alpha. Elles vont faire de toi un mâle fragile qui a peur de perdre sa puissance dès qu'il approche de trop près un attribut féminin. C'est-à-dire, même certains, dès qu'on leur demande de faire la vaisselle ou qu'on leur demande peut-être, je sais pas moi, de repasser une cheminée, on dit « Oula, moi je suis pas une gonzesse, je vais pas le faire », comme si le 5 peut le contact avec une éponge ou avec un fer à repasser, ça allait détruire le mâle qui est en eux. Un mâle fragile, il a construit sa masculinité en opposition au féminin, donc sur un mensonge. Il pense que pour être puissant, l'autre pôle a besoin d'être faible. Alors pour terminer cette chronique, je voudrais te parler d'une expérience de psychologie sociale qui a été réalisée en 2005 par un certain Wheeler. Parce que ouais, il m'arrive de regarder des trucs qui sont faits à l'université, pas simplement de faire l'apéro. Alors ils ont pris une centaine de sujets volontaires qui ont participé à une expérience. Les participants et les participantes devaient remplir une soi-disant enquête sur l'identité sexuelle. L'enquête était bidon et une fois que le test était terminé, Wheeler il a distribué les résultats aux participants et aux participantes et il a distribué des résultats au hasard. Certains sujets avaient la conclusion suivante. Vos réponses indiquent que vous avez une identité plutôt à majorité féminine. Et les autres participants avaient la conclusion suivante. Vos réponses indiquent que vous avez une identité plutôt à majorité masculine. Les sujets devaient ensuite répondre à une série de questions sur leurs goûts et leurs attitudes. Et bien voilà ce que les résultats ont donné. Les hommes qui avaient eu le résultat concernant une identité plutôt féminine, et bien ils avaient été très affectés par ce résultat, et à cette nouvelle enquête, ils répondaient de manière beaucoup plus agressive. Par exemple, ils disaient beaucoup plus, ils étaient contre le mariage homosexuel, ils étaient pour le maintien de la guerre en Irak, ils valorisaient leur attrait pour les grosses voitures, alors que les hommes dont l'identité sexuelle masculine n'avait pas été remise en question, bah, eux, ils se sont montrés un peu moins leur virilité. Et les femmes, tu vas me dire, comment elles ont réagi? ça a eu aucun effet de savoir qu'elles étaient plutôt avec une identité à majorité masculine ou féminine. Donc pour conclure, dans cette étude, ils sont venus à se dire que si on remet en question la masculinité d'un homme, sa virilité, il y a de fortes chances pour le faire basculer dans des positions encore plus machistes. Comme quoi, la virilité, c'est vraiment un truc fragile. Alors toi, gamin, comme je sais que sincèrement, tu veux devenir un vrai mâle alpha et que tu veux retrouver la puissance du masculin qui est en toi, la prochaine étape, c'est de déconstruire ton rapport au féminin. Tu dois déconstruire l'opposition avec laquelle on t'a bourré le mou, à savoir que le féminin est opposé au masculin, que le féminin est inférieur. Et tu dois envisager le féminin comme étant complémentaire avec le masculin et à égalité de valeur. C'est égal. C'est la source de la vraie force du mâle alpha. Reconnaître que sa force ne dépend pas de la faiblesse des autres et que le féminin a la même valeur que le masculin. Et ceci, malgré les différences entre les hommes et les femmes. Voilà, gamin, ce sera tout pour ta leçon de coaching du jour.
Et encore une belle étape à franchir vers le projet ultime, devenir le mâle alpha. Merci beaucoup, coach.
Je t'en prie, gamin, tu prends soin de toi et puis tu prends soin aussi des femmes qui t'entourent.
Très bien, compte sur moi, coach. À bientôt.
À bientôt.
Allez, on va se quitter avec Blur qui nous chante Girls and Boys. Et juste après, on retrouvera Élodie Perrichon pour parler d'action solidaire et citoyenne dans le Beaujolais. Blur sur Calade tout de suite. Sur Calade, le groupe Blur avec Girls and Boys.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et ensemble avec nous, c'est Élodie Perrichon qu'on retrouve tout de suite pour parler d'initiatives solidaires, d'initiatives citoyennes, associatives. Bonjour Élodie.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien, je vais très très bien avec le soleil, tout va bien.
Alors, je sais que tu as l'œil sur toutes les initiatives, voilà, comme je l'ai dit, solidaires et citoyennes qui se passent autour de nous, que tu fais ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, de quoi as-tu été témoin? Qu'est-ce qui t'a interpellé dernièrement?
Alors, on va parler aujourd'hui des associations du Beaujolais qui se préparent pour cet été et qui commencent doucement à mettre en place des animations pour cet été aux adultes et aux enfants. Donc évidemment, bah, ça va aussi dépendre de ce qui va être dit à compter du 2 juin sur l'assouplissement des règles de déconfinement. Donc on va attaquer par le Centre culturel Vivre Ensemble qui est situé à Belleville en Beaujolais. Et qui nous prépare pour cet été, comme ils l'ont déjà fait, des animations au lac des Sablons, une journée au lac avec des animations pour enfants, des jeux de cordes, et puis, donc encore une fois, si c'est possible, avec les règles de déconfinement, des jeux gonflables pour enfants. Donc l'occasion de passer une journée au lac, de se rencontrer, centre culturel Vivre Ensemble, et puis de passer une journée agréable en fait au lac.
Tout simplement, quelque chose qui nous manque beaucoup, de passer des journées dans des parcs, de voir du monde et puis de s'amuser tous ensemble. Ouais.
La deuxième association dont on va parler, ce sera le Comptoir des Collines. Donc l'association s'appelle APID, on peut retrouver la page du Comptoir des Collines, la présidente c'est Christine Brett, elle a une page Facebook, Comptoir des Collines, C-O-M-P-T-O-I-R, des Collines, C-O-2-L-I-N-E-S, donc l'association APID, qui est un bus qui sillonne le Beaujolais pour promouvoir les initiatives et puis la rencontre. Donc APIL, c'est l'association pour le partage et la promotion des initiatives locales. Donc pour cet été, Christine Brett nous prépare donc l'organisation d'une fête champêtre et d'autres animations, donc là encore avec d'autres associations, peut-être l'Oasis aussi de Villefranche, donc des animations toujours pareilles pour que les gens se rencontrent et puis promouvoir aussi notre territoire du Beaujolais.
Et donc la fête champêtre, en quoi ça consisterait? C'est un rendez-vous
Alors la fête champêtre, ce sera innovateur, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, ce sera une première édition, et ce sera valoriser un petit peu le territoire Beaujolais, toutes les actions culturelles, artistiques, et ce sera certainement en plein air, voilà.
D'accord, donc ça c'est organisé par l'association APIL.
L'association APIL.
Avec le Comptoir des Collines.
Exactement. On peut trouver la page Facebook APIL. Voilà, il y a toutes les informations sur ce qui se prépare. C'est une page Facebook, donc c'est ce qui se prépare dans le Beaujolais, les animations pour cet été. Encore une fois, beaucoup d'animations prévues et tout sera mis en place selon les règles de sécurité, de distanciation. On va voir ce qui va nous être dit à compter du 2 juin.
Ah, des annonces,
on attend tous impatiemment.
Très attendues, ouais.
Oui. Mais comme tu le vois, les associations sont sur le pied de guerre, les associations culturelles, touristiques, d'animation, elles sont sur le pied de guerre. On a tout plein d'animations qui se préparent et malgré le déconfinement, en respectant tous les gestes barrières, on nous prépare un bel été dans le Beaujolais.
Oui, la sécurité sanitaire, c'est ce qu'il y a de plus important. Il me semble que tu voulais nous parler aussi d'une action mise en place par l'effet papillon.
Alors on va terminer sur l'association L'Effet Papillon, dont je suis la présidente. Donc on a, comme tu le sais, durant tout le confinement, on a fait de la confection de masques réalisés selon le type AFNOR avec une NF, une norme française, et la marque L'Effet Papillon. Donc à ce jour, on en a réalisé plus de 4500 qui ont été distribués à des associations, des PME, des artisans, des maraîchers. Et aussi les particuliers par le biais des commerçants, actuellement 5 commerçants à Belleville. Et donc voilà, une nouvelle opération qui se prépare, ça va être des couturières en salle. On continue la confection de masques et donc la mairie de Belleville nous a mis à disposition une salle. Carrefour Market nous a donné des machines à coudre, on a nos bénévoles et donc j'en profite pour lancer un appel. S'il y a des couturiers, des couturières dans le secteur de Belleville qui seraient intéressés pour passer une demi-journée en salle avec d'autres couturières, toujours pareil, on respecte la distanciation, les gestes barrières, et nous rejoindre dans cette opération couturière papillon en salle. Donc il faut passer par la page de l'association, la page Facebook, l'effet papillon. Et bah écoutez, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre, le tissu est fourni, les machines à coudre sont fournies, et puis on sera entre bénévoles. Et donc là, les masques qu'on va confectionner seront remis pareil aux commerçants de Belleville pour être redistribués gratuitement à la population. Mais pas que, ce sera aussi pour les assistantes maternelles, toujours pour les associations, pour les structures privées ou publiques.
Eh ben une belle initiative de la part de l'effet papillon. Donc on peut prendre contact avec vous par la page Facebook de l'effet papillon. Il manque plus que de l'huile de coude, si j'ai bien compris. Il y a déjà le tissu, les machines, il y a tout ce qu'il faut.
Exactement, exactement. Donc ça reste une initiative citoyenne. Je félicite tous nos partenaires et j'ai une grande félicitation aussi pour tous ceux qui nous ont remis du tissu, les entreprises, les commerçants et puis ben toutes nos bénévoles qui sont de Villefranche, Charentais, Saint-Georges, Belleville, Quincier, Tapona. Donc bravo à tous les bénévoles.
Très bien, et ben merci Élodie de nous avoir parlé de ces initiatives solidaires. On se donne rendez-vous bientôt pour avoir un nouveau bilan de ce qui se passe autour de nous.
Oui, avec plaisir.
Bon, et on va se quitter avec le chant des partisans de motiver, parce qu'il faut être motivé dans le monde associatif.
Exactement.
À bientôt Élodie.
À très bientôt Mathieu, au revoir tout le monde.
Motivé, il faut l'être, et ça fait du bien d'être motivé. Il va être 13h, l'heure des informations nationales avec le journal de RFI, suivi du journal local. On se retrouve juste après pour parler musique avec Léonard du Super Son des 60s et puis Georges Boton. Et puis on a aussi rendez-vous avec notre invité Sonit. Donc à tout à l'heure, juste après les pages d'information. Ciao, ciao.
Calade, 13h.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Et oui, nous voilà de retour dans la seconde partie de Ensemble sur Calade. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, rebonjour à ceux qui étaient avec nous. Il est 13h25 et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On a rendez-vous avec Georges Boton pour sa rubrique quotidienne Mai la 11e. Et en fin d'émission, on a rendez-vous avec le musicien Sonit. On parlera de sa musique avec lui et de musique. Eh bien, on en parle d'ores et déjà avec Léonard Michalon, l'animateur du Super Son des 60s. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bah écoutez, ça va sous le soleil breton et puis tout va mieux dès qu'il fait beau.
C'est ça, c'est ce que j'entends souvent. Alors le Super Son des 60s, l'émission que vous animez sur notre antenne, c'est une émission dans laquelle on redécouvre des artistes qui ont eu des grands succès à leur époque ou des plus petits succès et qui ont été malheureusement un peu oubliés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir avec vous ?
On va découvrir ou redécouvrir, comme vous le dites si bien, un groupe californien. C'est vrai, quand on parle de soleil, on parle souvent de la Californie. C'est un groupe qui portait un drôle de nom, un petit peu ridicule, mais bon, qui s'appelle The Mamas and the Papas. Il y avait que le nom du groupe qui était un peu amusant, parce que le reste de leur musique était un peu plus sérieuse et de qualité.
Alors, Mamas and the Papas, c'est California Dreaming pour moi, évidemment.
C'est complètement California Dreaming. Alors, tout le monde pense que c'est les Beach Boys, mais non, c'est les Mamas qui l'ont composé. C'est vraiment un groupe qui a animé la scène californienne entre 65 et 68. Alors, c'est vrai qu'on pense souvent aux Beach Boys, à Jefferson Airplane, aux Birds, et on les oublie, on les laisse de côté. Ils ont été reconnus qu'un petit peu tard. Et pourtant, c'est, voilà, c'est, moi, je trouve ça génial. Et ils ont en plus cette caractéristique d'être un groupe mixte, figure, garçons, ce qui n'était pas si fréquent que ça à l'époque, et en plus de ne jouer d'aucun instrument. Parce qu'en fait, c'est un groupe vocal qui s'est fait assister par des musiciens. Alors, ils ont recruté parmi la crème des musiciens. Et ils ont fait quelques reprises, beaucoup de compositions originales à l'intérieur. Et donc, on trouve deux filles et deux garçons. Au départ, d'ailleurs, ils ne voulaient pas s'appeler comme ça. Ils voulaient s'appeler The Magic Circle. Mais ils voulaient un nom amusant, un truc facile à retenir. C'est vraiment l'époque qui veut ça aussi. Je pense qu'il ne fallait pas trop se prendre la tête. Et donc, les deux filles du groupe ont proposé The Mamas et les deux garçons ont ajouté The Papas. Et c'était parti pour 3-4 ans et 4 albums. Il y en a eu un autre après en 1971, mais qui est plus anecdotique. Et donc, 4 albums qui sont absolument magnifiques. Ouais.
En 4 ans, vous avez dit, c'est sur une période assez courte, du coup.
C'est très court. C'est très court, c'est assez éphémère, comme beaucoup de groupes de cette époque-là. Hein. Ils sont rares, les groupes qui ont duré très longtemps. Même les Beatles, ça a fait quoi, 8 ans tout au plus, dans leur formation définitive. Ils se sont séparés. Bon, il y a eu pas mal d'histoires, d'aventures un peu de sexe, il faut le dire, à l'intérieur du groupe. Tout le monde s'est engueulé. Il y a eu pas mal de drogue aussi qui a circulé, pas mal d'alcool. Et puis, il y en avait deux dans le paquet qui étaient quand même assez dépressifs. Donc, ça s'est engueulé. Puis, l'époque a fait qu'après 68, ils se sont séparés. Donc, ils sont quatre. Donc, si on commence par les garçons, il y a John Phillips. Alors, si un jour vous voyez la photo, vous le reconnaîtrez tout de suite. C'est le beau mec. Il mesure 1m96, donc on le remarque tout de suite. Et c'est lui qui va composer d'ailleurs les plus grands morceaux du groupe. Et c'est lui aussi qui a composé un morceau qui est devenu l'hymne du Power Flower, puisque c'est lui qui a composé le morceau San Francisco, To Wear Some Flowers in Your Hair, qu'il a filé à son pote Scott McKenzie, et qui est devenu un espèce de tube mondial. McKenzie n'aura fait que ça, mais son copain lui a filé quand même une belle chanson, quoi. Ouais. Et puis le deuxième chanteur, donc deuxième garçon, c'est Denis Doherty. Alors lui, il est canadien, et il avait rencontré John Phillips sur une tournée, comme ça ils sont devenus amis. Et puis donc les filles, alors il y en a une donc, qui est un ancien mannequin qui s'appelle Michelle et qui va devenir la femme de John Phillips. Elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. Et c'est, pour la petite histoire d'ailleurs, les Beatles ont écrit leur chanson Michelle en pensant à elle la première fois qu'ils l'ont vue, quoi. Et puis il y a Cass Elliot. Alors elle, c'est véritablement la seule qui soit une très grande chanteuse en solo. D'ailleurs, elle fera 8 albums après la fin du groupe, et elle va mourir tragiquement en 1974. C'est une femme qui avait un problème d'obésité extrêmement marqué, et elle a suivi des régimes comme on en faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'elle mangeait un jour sur 3, alors qu'en même temps elle faisait une tournée en Angleterre. Et donc ses privations vont lui coûter la vie. Et 4 ans plus tard, dans la même chambre d'hôtel, c'est là où le batteur des Who va mourir. C'est un hôtel marqué par la mort.
Des histoires tragiques et qui s'entremêlent avec plein de groupes, les Who, alors j'ai plus le nom du chanteur de San Francisco, les Beatles, des grands noms quand même.
Ils ont vraiment marqué leur époque, et puis c'est vraiment un groupe californien, c'est-à-dire qu'on est sur les harmonies vocales, sur des morceaux de pop très enlevés. Alors c'est vrai que vous avez cité California Dreaming, mais il y a Monday aussi. Je vais repérer deux ou trois titres, Look Through Any Window, et puis des reprises. Alors, Dedicated to the One I Love, qui est une berceuse en fait, et qu'ils reprennent tous les quatre, c'est absolument magnifique. Dancing in the Street, alors ce gros morceau de danse qui est très bon aussi. I Call Your Name, The In Crowd, etc. Voilà, leurs 4 premiers albums sont vraiment tous excellents. Et ils se sont adjoints quand même aussi des musiciens, parce que forcément, quand on enregistre des disques, il faut quand même qu'il y ait des gens qui fassent un peu de musique derrière. Et on a retrouvé, alors on a croisé les Beatles, comme vous l'avez dit, on retrouve un petit peu les Doors, parce que vraiment, Manzarek est venu faire des claviers sur No Salt in Your Hair, qui est d'eux aussi. On a un batteur qui s'appelle Earl Blaine, qui est un garçon qui était extrêmement demandé dans les studios. C'est lui qui joue sur Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. Il joue aussi sur la reprise des Birds du Mr. Tambourine Man. Voilà, on le retrouve là. On a des flûtistes, on a pas mal de gens qui sont venus avec eux. On a Joey Sample, par exemple, qui a joué des claviers énormément avec eux, qui plus tard travaillera avec Steely Dan dans les années 70. On va quand même le haut niveau, quoi.
Du beau monde, ouais, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on écoute de ce groupe-là, The Mamas and the Papas? Quel titre on va découvrir
aujourd'hui? Alors, on va récupérer ce morceau qui s'appelle Creaky Alley et qui raconte, en fait, alors bien sûr, c'est en anglais, les débuts du groupe. Creaky Alley, c'était le nom d'un club où ils aimaient aller se ressourcer ensemble et composer ensemble. Et donc, à l'intérieur, si on écoute bien, on entend à un moment, il cite un nommé Duffy, qui était le patron du Creaky Alley, du club. On entend aussi une allusion à McGuinn et McGuire. Alors Roger McGuinn, c'est celui des Birds, bien sûr, et Barry McGuire, c'était un garçon qui jouait dans les New Christie Minstrel, qui était un petit groupe de l'époque. On entend aussi Night Hall Café, qui est à Greenwich Village à New York. Voilà, on entend aussi ils parlent d'eux-mêmes, hein, puisqu'ils parlent à un moment, si on entend Dini, donc Denis, le prénom d'un des deux chanteurs, et on entend Mama Cass, qui est répété plusieurs fois. Voilà.
D'accord, donc une petite histoire où on rencontre plein de monde et de beaux lieux chantés par les Mamas and the Papas, c'est ça qu'on
écoute. Et toujours en s'amusant et toujours en prenant plaisir à ça, et ça s'entend en fait dans leur musique.
Et ben merci pour ce choix musical, on vous retrouve dans votre émission Le Super Son des 60s à 19h sur Calade, Léonard Michalon.
Avec plaisir.
Et bien à tout à l'heure, et puis on vous retrouve aussi dans cette émission la semaine prochaine.
Oui, d'accord.
Allez, bah merci beaucoup encore une fois, et puis très bonne fin de journée, à bientôt.
Merci à vous et bonne fin de journée, au revoir.
The Mamas and the Papas, donc avec Creaky Alley sur Calade.
John and Mitchie were getting kind of itchy just to leave the folk music behind. Denny working for a penny, trying to get a fish on the line.
In a coffee house Sebastian sat, and after every number they passed the hat.
McGuinn and McGuire's just a getting higher in L.A., you know where that's at.
And no one's getting fat except Mama Cass. So they said, Denny, you know there aren't many who can sing a song the way that you do. Let's go south.
Denny says, Ollie, golly, don't you think that I wish I could play guitar like you?
So Denny and Sebastian sat
at the night out,
and after every number they passed the hat.
McGuinn and McGuire still are getting higher in L.A., you know where that's at.
And no one's getting fat except Mama Cass. When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, thumb out the hitchhike, take her to New York right away.
When Denny met Cass, he gave a love bomb.
Most John and Zong, and that was the month from.
McGuinn and McGuire couldn't get no higher, but that's what they were aiming at.
And no one's getting fat except Mama Cass.
Mugwumps, high jumps, low slumps, big bumps, don't you work as hard as you play.
Make up,
break up, everything is shake up.
Yes, it had to be that way.
Sebastian and Zong form a spoonful.
Shelton and Denny getting very tuneful.
McGuinn and McGuire just a catching fire in L.A., you know where that's at.
And everybody's getting fat except Mama Cass. Oh,
oh.
trust him, and then she wants to go to the sea. Cass can't make it, she says we'll have to fake it. We knew she'd come eventually. Greasing on American Express cars.
But keeping out the heat spot.
Love these good vibrations in our imaginations. Can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality.
Et voilà un morceau plein de soleil, de bonne humeur, des Mamas and the Papas. C'était Creaky Alley sur Calad. Il est l'heure de retrouver Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e.
Ensemble sur Calad.
Ensemble sur Calad.
Ensemble sur Calad.
Et bonjour Georges, très heureux de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Comment vas-tu?
Eh bien, bonjour Mathieu, ben moi aussi je suis très content de retrouver mes amis auditeurs et auditrices, et j'espère que tout le monde va bien, il fait beau, ça fait toujours plaisir.
Eh oui, ça fait toujours du bien. Alors que nous as-tu préparé encore aujourd'hui, Georges, avec
alors,
quoi vas-tu nous surprendre?
Comme c'est le printemps, si j'ose dire la saison des amours, j'ai trouvé trois petites phrases sur l'amour, trois pensées de trois auteurs différents, qui sont, ça va du coquin, c'est pas méchant, avec une réflexion philosophique. La première réflexion, elle est coquine, c'est de Frédéric Dard, alias San Antonio, l'écrivain San Antonio, qui a écrit ou qui a dit, l'amour, d'abord, ça ne se dit pas, ça se fait. C'est plutôt coquin, c'est pas méchant. Et puis alors une réflexion beaucoup plus esthétique, si j'ose dire, qui est d'Honoré de Balzac, l'écrivain français. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est aussi un art. Et puis la dernière réflexion, qui est du grand écrivain Saint-Exupéry, alors elle est beaucoup plus philosophique, elle traduit un peu le sens de la vie, où elle donne un sens à la vie. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Fin de citation. Voilà. Alors, chers amis auditeurs et chers amis auditrices, j'ai sorti aujourd'hui un morceau qui est ancien, puisqu'il date du 17 septembre 1926, l'enregistrement à Chicago. Le titre est très triste, puisque c'est Dead Man Blues, le blues de l'homme mort, mais l'interprétation en est absolument merveilleuse, et le responsable du groupe, King Oliver, est une grande figure du jazz traditionnel. Alors, donc, le morceau Dead Man Blues est interprété par le King Oliver et son Dixie Syncopators. Je vais vous dire quelques mots de King Oliver, parce que c'est une légende et une figure du jazz traditionnel. Il est né en 1884 à la Nouvelle-Orléans, où en 1885, une fois de plus, les états civils à l'époque n'étaient pas très précis. Ça a été le même cas d'ailleurs pour Sidney Bechet. Et King Oliver est décédé en 1937 à Savannah, en Géorgie. Il a vécu 53 ans. C'était un joueur de cornet, c'était un chef d'orchestre et un compositeur. Et il a débuté au trombone, puis il s'est mis au cornet dans différents orchestres, l'Eagle Band, l'Howard Brass Band, Magnolia Band, etc., etc. Ensuite, il a joué dans le groupe de Richard M. Jones en 1912. Il avait donc 28 ans. Et puis ensuite chez Kidori, le grand tromboniste, à 33 ans. Ensuite, ça c'était en 1917. Et je vous rappelle qu'en 1917, il y a eu la fermeture du quartier de Storyville, le quartier chaud de la Nouvelle-Orléans, et que tous les musiciens, où la plupart des musiciens ont été obligés de s'exiler soit au nord, soit à l'est, soit à l'ouest des États-Unis. Donc King Oliver, en 1918, est parti pour Chicago. Ensuite, en 1921, à 37 ans, il a formé son premier et propre groupe à San Francisco. Puis il est revenu à Chicago et il a fondé le Creole Jazz Band. Et alors là, le Creole Jazz Band, il avait embauché Louis Armstrong, qui sera le second trompette de son groupe. Et c'est là que ces deux grands musiciens, et plus les musiciens qui les accompagnent, bien entendu, ont enregistré quelques titres, quelques morceaux absolument superbes, qui sont des morceaux cultes dans le patrimoine du jazz traditionnel. Chez King Oliver, beaucoup de ses musiciens l'ont quitté. Il a fondé alors le King Oliver's Dixie Syncopators en 1924. Et puis le Savannah Syncopators, là je ne sais pas pour quelle raison il a changé de nom. Et il a continué à diriger des orchestres jusqu'en 1937, l'année de son décès. Il avait un problème de santé, il a perdu toutes ses dents, donc il ne pouvait plus jouer de la musique, et il est mort dans la misère et l'oubli complet, paraît-il, c'est vraiment dommage. Alors, King Oliver, sur le plan historique, c'est un personnage essentiel du jazz traditionnel, car il a eu l'intelligence de structurer les improvisations collectives, parce que souvent dans les orchestres de jazz du début, du 20e siècle, c'était un peu ça partait dans tous les sens, surtout dans les fanfares. Donc King Oliver a eu la sagesse de régulariser tout ça, discipliner tout ça en quelque sorte. Et alors en plus, il avait une grande sagesse pour tous les amateurs de jazz, c'était un collectionneur et un conservateur du folklore primitif, en particulier les blues, les mélodies typiques, qui à l'époque, je vous rappelle, n'étaient que maintenues en mémoire uniquement par une tradition orale. Ensuite, il a beaucoup contribué à faire connaître le style Nouvelle-Orléans. Ensuite, il a composé beaucoup de morceaux, des morceaux cultes également. C'est lui qui a composé West End Blues, Dippermouth Blues, Canal Street Blues, Dr. Jazz, Camp Meeting Blues, et le dernier morceau, Camp Meeting Blues, est devenu sous la baguette de Duke Ellington, le Creole Lord Cole, qui est également un morceau extrêmement sérieux. Voici, chers amis auditeurs et chères amies auditrices, la petite histoire de King Oliver, et maintenant je vais vous laisser apprécier ce Dead Man Blues par King Oliver et ses Dixie Syncopators, et moi je vous dis à demain, passez une bonne journée, et je dis la même chose pour toi, Mathieu.
Et Georges, juste une question, si j'ai bien compris la biographie de King Oliver, c'est lui un petit peu qui aurait lancé Louis Armstrong en le prenant dans son groupe alors?
On dit, si tu veux, que ça a été son professeur. Ça n'a pas vraiment été son professeur, mais il l'a quand même, il l'a formé, il l'a conseillé, ils avaient une très grande amitié, et d'ailleurs j'avais lu dans je ne sais plus quel livre, à partir du moment où King Oliver a embauché Louis Armstrong, King Oliver s'est rendu compte que Louis Armstrong lui était supérieur au point de vue technique et au point de vue musicalité. Donc il y a eu une espèce de petite jalousie.
Cette rivalité.
Je crois qu'il n'y a jamais eu de problème entre eux. Mmh. Enfin, King Oliver a compris qu'il n'était pas parce qu'il était très connu à l'époque, a compris que c'était pas le super-homme et qu'Armstrong allait le détrôner un jour. Ce qui s'est produit, bien entendu, puisqu'Armstrong a eu une renommée absolument mondiale. Mmh. Et malheureusement, King Oliver, comme je viens de le dire, est décédé dans la misère.
Bon, bah on écoute le mentor, on peut dire, en quelque sorte, de Louis Armstrong, c'est King Oliver sur Calade avec le Dead Man's Blues. Merci beaucoup, Jean.
Je sais que le titre est triste, et dans les circonstances actuelles, je ne devrais pas mettre de morceau triste, mais il est tellement beau que je ne peux pas m'empêcher de le mettre.
Bon, faut en profiter, alors.
Allez, à demain, Mathieu.
À demain, à bientôt, merci. We'll be right back. Blues, c'était le choix musical de notre invité, de Georges Botton, notre chroniqueur pour sa rubrique Mais la 11e Dead Man Blues par King Oliver sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et tout de suite, on retrouve un musicien de la région, du Beaujolais, qui tourne beaucoup depuis un certain temps dans la région, dans le Beaujolais. Ce musicien, c'est Sonit, et c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Bonjour Sonit.
Bonjour Mathieu.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, je vous remercie.
Ça va. Alors, je voulais profiter d'avoir ce moment avec vous à l'antenne pour parler de votre carrière et puis de votre musique. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par vous demander comment est-ce que un jour vous vous êtes dit je vais devenir musicien ? Comment est-ce que ça s'est passé ce moment ?
Alors, je dirais l'inverse. La vie qui m'a pris plutôt que l'inverse. Moi, j'ai commencé à faire de la musique en 6e. J'ai commencé par la guitare classique et j'avais la chance d'avoir dans mon collège un professeur de musique tout à fait exceptionnel qui avait une activité musicale très développée où on faisait de la musique, que ce soit chorale, percussion, chant, de la 6e à la 3e et les 4e, enseigner au 6e, etc. Donc c'était autogéré. Il y avait un espèce de souci de transmission et moi, je savais que j'avais envie de faire de la musique. Comment, je ne savais pas encore à cette époque-là, parce que ma mère voulait que je fasse autre chose. Mais, comme toutes les mamans, hein, mais en tout cas, je savais que j'avais envie de faire de la musique. Et puis en seconde, j'ai fait mon premier CD quand j'étais au lycée. Et puis voilà, ça ne m'a pas quitté depuis. Depuis, j'ai eu des groupes, on a fait pas mal de scènes. Et puis voilà, aujourd'hui, en solo.
Donc déjà, ça a commencé très jeune, la passion pour la musique. Et ouais, vous avez commencé notamment à beaucoup tourner avec le groupe Mad Jimmy Tips, je l'ai mal prononcé.
C'est ça, Mad Jimmy Tips. Voilà, c'est un groupe, c'est le groupe qui m'a amené sur Villefranche, hein, clairement, puisque moi je suis lyonnais d'origine. Et puis c'est le groupe qui m'a ramené sur Villefranche, on répétait déjà à Villefranche. Le groupe existait déjà avant que j'arrive, c'était plutôt rock funky, avant que j'arrive, et puis moi j'avais déjà d'autres groupes auparavant, ça s'est transformé en reggae afrobeat tous ensemble, avec le travail qu'on a tous fourni ensemble, et puis on a fait pas mal de choses, des festivals, on a joué avec pas mal de têtes d'affiches, c'est tourné pas mal en France, effectivement, c'était un début d'approche sur la vie de groupe.
Et vous êtes passé il y a une dizaine d'années sur une carrière solo sous votre nom de scène dont on vous connaît actuellement, Sonit.
Voilà.
Alors, quel genre de musique c'est Sonit ? Comment est-ce qu'on pourrait caractériser votre musique ?
C'est toujours très difficile à classer. Moi, je pense que la musique, elle n'est pas uniquement une esthétique, mais plusieurs. Je pense pouvoir dire que ça réunit le rock, le reggae, enfin tout ce qui a fait mes inspirations. Alors il y a une grosse patte reggae effectivement, mais les puristes du reggae vous diront que je fais pas de reggae et les néophytes du reggae vous diront l'inverse. Mais je me situe plutôt dans une veine world jusqu'ici en tout cas, et le troisième album qui va arriver changera un petit peu d'esthétique.
Alors justement, il y a un album qui est en cours de production, là, qui devrait sortir bientôt ?
Alors il y a un album qui est en préparation, il y a des morceaux qui commencent à être couchés, et je reviens à mes premiers amours un peu rock'n'roll, pop-rock, indie des années 70, et ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'avais quitté un peu ce côté-là, et ça fait plaisir de s'y retrouver, et c'est mes premières influences, hein, des années 60-70, les Beatles, les Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer, Jet Rotul, Crosby, Nash & Young, et j'en passe des meilleurs, mais pour vous donner quelques noms. Mais voilà, il y a un troisième album qui est d'ores et déjà en préparation.
Et alors, je sais que chaque artiste a un peu sa façon de créer. Vous, c'est quoi votre méthode ? Est-ce que c'est la musique qui vient toute seule ? Est-ce qu'il faut que vous mettiez dans une ambiance particulière pour travailler ? Comment se passe la création ?
Il n'y a pas de recette à proprement dit. C'est vraiment suivant l'inspiration quand elle veut bien arriver. Alors, ça correspond évidemment avec des moments de bien-être dans sa vie, c'est important. Il y en a qui écrivent dans la douleur, moi pas du tout. sur les quelques années, mon inspiration était un peu en stand-by. Et là, elle commence à revenir avec le plus grand des plaisirs pour moi. Et voilà, il n'y a pas vraiment de recette. C'est soit je vais avoir tout d'un coup en un quart d'heure comme une apparition subliminale, soit je vais commencer à avoir une musique, un air et poser des paroles dessus, soit j'aurai les paroles d'abord et la musique après. Enfin, moi, je sais qu'il n'y a pas particulièrement de règles. Je vais dire que dans une majeure partie, c'est souvent la musique qui arrive avant.
Et là, il y a déjà des morceaux de coucher, vous nous avez dit des morceaux de près. Cette période de confinement qu'on vient de vivre, est-ce que ça vous a aidé à travailler plus la musique ou au contraire, c'était pas forcément l'ambiance pour vous pour pouvoir travailler ?
Alors, cette période de confinement a été vécue, comme beaucoup d'artistes, hein, très difficilement, en sens où on est dans un métier où on voit beaucoup de gens, dans un métier où on est sur la route tout le temps. Moi, pour ma part, c'est beaucoup de contrats annulés. On essaie de travailler différemment, on se replie un peu sur l'écriture. Moi, j'avais commencé à écrire sur le confinement parce que j'avais des choses à dire dessus. Et je rejoins la question qui a été posée juste avant sur le fait de savoir s'il y avait déjà des morceaux couchés. Justement, il y en a un qui a été fait pendant le confinement et dont je sors le clip lundi prochain. Qui a été fait de manière collaborative avec des gens du monde entier pour parler du confinement chez soi. Voilà, et révéler du fait que ça nous a permis aussi d'avoir une introspection et de prendre des leçons aussi sur notre manière de vie et sur notre méthode de vie et avec les autres et par rapport à soi-même. Une petite introspection, je pense qu'il y a quelques leçons à en tirer.
Et vous nous dites que vous avez travaillé du coup avec des musiciens du monde entier. Il y avait ce paradoxe, on a été enfermés chacun chez soi et en même temps, moi j'ai l'impression que j'ai jamais autant appelé mes proches, que j'ai jamais autant communiqué avec ma famille, mes amis. Ça a permis aussi de prendre contact avec des gens un peu plus loin, non, peut-être ?
Je pense qu'on avait tous un peu besoin de contact, donc les nouvelles technologies font que aujourd'hui, heureusement, on a pu rester en contact avec nos proches et puis se tourner peut-être un peu plus vers eux, prendre le temps là où on disait qu'on n'avait pas le temps. On se rend compte que finalement c'est quelques minutes, mais que ça fait du bien. Le clip participatif que j'ai fait, il est pas avec des musiciens du monde entier, mais avec des gens lambda du monde entier. Justement, il n'y a pas que des musiciens dans ce clip, c'est surtout des gens lambda qui parlent de leur vie pendant le confinement à travers des images. Et j'ai des gens de l'Inde, du Sénégal, du Sri Lanka, d'Afrique, de Guyane, de France évidemment, que ce soit la plaine ou la montagne ou le bord de mer. Donc, je pense qu'il y avait vraiment, ça a révélé cette période de confinement, en tout cas un besoin d'être plus solidaires les uns des autres. Et les nouvelles technologies ont vraiment permis ça.
Ouais. Et vous nous parliez aussi des spectacles, de tout ce qui a pu être annulé. Vous avez des perspectives futures. Je sais que la période de l'été pour les artistes, c'est une période cruciale, on va dire. C'est avec une grande visibilité. Comment est-ce que vous voyez le futur au niveau de la scène ?
Alors là, c'est très compliqué, dans le sens où nous, on a l'impossibilité de pouvoir travailler. On peut pas travailler tant que les restaurants, les lieux de fête, etc. n'ont pas réouvert. On est exactement dans le même cas qu'eux. Il y a un vrai besoin, par contre, on sent que les gens ont besoin de faire la fête, de se retrouver, de se regrouper pour faire la fête. Seulement, pour l'instant, c'est pas possible. Il est sûr que sur l'été, là, pour l'instant, c'est très compliqué parce que même les établissements qui avaient un petit peu de budget pour dégager un budget pour des musiciens, c'est pas dit qu'à la moitié de leur capacité, due au consigne de sécurité, puissent mettre un budget pour accueillir des artistes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de compliqué vis-à-vis de ça. Après, on verra comment ça se passe à partir de début juin, mi-juin. Et pour la mise en application et pour les modalités. Quoi. Mais pour l'instant, il n'y a aucune visibilité sur la saison estivale, c'est sûr.
Ouais, et j'entends par-ci, par-là, quelques artistes imaginer des solutions alternatives pour retrouver le public. Alors, vous, j'imagine que déjà, il y a ce clip que vous allez sortir pour continuer à avoir un lien avec le public. Vous avez réfléchi aussi, peut-être, à d'autres méthodes ?
Alors oui, il y a effectivement ce lien qui est important. Moi, j'ai fait quelques lives aussi pendant le confinement, ce qui a permis de se rendre compte que, enfin, c'est quand même dingue de se dire qu'on est tout seul dans son jardin et d'avoir 3000 personnes quand même autour de nous. C'est quand même assez phénoménal. Au-delà de ça, j'ai des gens qui m'ont appelé aussi pour aller se produire dans des drive-in où on jouerait sur scène avec rediffusion sur l'écran géant et des casques audio seraient diffusés dans les voitures. Donc on est sur différents concepts tels que ceci. Après il y a les concerts dans les jardins chez les gens que je vais aussi mettre en place à mon point de vue pour ceux qui voudront avec des petites réunions chez les gens. Et je pense que si on arrive à se cotiser à 10-15 personnes, on peut peut-être arriver à faire quelque chose pour que tout le monde puisse en sortir. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment compliqué.
Bon bah en tout cas on a hâte, nous, moi je dis ça en tant que public et qui aime beaucoup les concerts, de retrouver les artistes et vous en particulier Sonite, de vous retrouver sur scène, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup. Il va presque être 14h, on va se quitter avec un de vos morceaux, un morceau de votre dernier album, on va écouter Je t'emmène.
C'est ça, le morceau qui est le titre de mon dernier album. Je pensais qu'avec ce soleil en ce moment, il était agréable d'avoir quelque chose de coloré et de rythmé. Et ce morceau, on est tout à fait la bonne illustration.
Eh ben, merci beaucoup. On souhaite une bonne continuation. Et puis, moi, je dis au revoir à tous les auditeurs, auditrices, et je leur donne rendez-vous demain.
Voilà, j'en profite juste pour glisser un petit mot. Merci à vous, Radio Calade. C'est tellement important d'avoir des médias locaux qui font vivre nous, les artistes locaux, mais aussi la vie locale. Donc un grand merci à vous.
Eh bien, ça avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.
Au revoir, merci.
La force de chanter.